Bonsoir et merci pour votre présence à cette nouvelle séance, une séance qui inaugure donc un de nos rendez-vous qui est consacré au patrimoine du cinéma documentaire pour vous faire voir et revoir quelques pépites de cette histoire du cinéma. C'est un cycle en fait qu'on vous propose avec Trésor du Doc cette saison qui est un peu particulier puisque c'est un hommage à un cinéaste disparu, comme vous le savez. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a aussi deux autres hommages, c'est un petit peu le hasard du calendrier qu'on vous propose cet hiver dans ces salles, dans nos salles pour la Cinémathèque du documentaire. On fera un hommage à une cinéaste née au Pérou, mais plutôt néerlandaise, qui s'appelle Hedy Honigman. Et aussi, on terminera fin mars avec un hommage un petit peu particulier à Jean-Luc Godard, sans doute le plus connu des trois cinéastes. Donc le fil rouge de ces trois séances, c'est peut-être pas évident forcément quand on le voit à l'écran, c'est la rue. La rue qui joue un rôle qui a joué un rôle dans la vie et dans la pratique artistique de William Klein tout à fait particulier. Vous le savez sans doute, William Klein est né en 1928. Il est né à New York, à Manhattan, au coin de la 42e et de la 109e rue, très précisément. Il est le petit-fils de Wolf Klein, qui était un émigré juif hongrois, qui avait réussi dans le prêt-à-porter, mais malheureusement les parents de Klein ont un peu tout perdu puisqu'ils ont joué en bourse l'année suivante de la naissance de William Klein, 1929, je pense que ça vous évoque quelque chose. Et donc William Klein, c'est quelqu'un qui a commencé en tant que cartooniste, et c'est notamment comme cartooniste qui s'est un petit peu illustré pendant son service militaire en Allemagne. On est juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il dessinait pour le journal des armées, Stars and Stripes. Et puis William Klein s'est très rapidement, est rapidement passé du dessin à la peinture. Et c'est finalement cette qualité de peintre qu'il arrive à Paris à la fin des années 40, un petit peu sous le patronage d'un certain Fernand Léger. Et très rapidement, il va sortir dans la rue avec son appareil photographique. Donc cette pratique photographique, c'est un petit peu la première grande phase en fait de William Klein, de 1954 à 1964. Et à cette date, il va délaisser l'appareil photo pour la caméra. Mais finalement, il ne va pas cesser d'arpenter les rues de la planète, et notamment des rues qui lui sont chères, les rues de Manhattan. Il va en rapporter énormément de photos, et c'est finalement la première influence, j'allais dire, c'est celle de Broadway, puisque vous avez sans doute vu son film Broadway by Light, un film de 1958 qui est filmé de nuit et qui nous montre toute la magie, toute la féerie des illuminations de la nuit new-yorkaise. Donc ça, c'est une première expérience, j'allais dire, de rue avec le cinéma. Et puis, pour William Klein, la caméra, c'est vraiment la caméra dans la rue. C'est une manière de rencontrer les gens et aussi de chercher la parole, de chercher à susciter la parole. Donc cette première expérience, j'allais dire, de parole de rue, il va la trouver dans un film qu'on va vous montrer le 5 février, qui est Mohamed Ali, puisqu'il a tourné dès 1964 des images d'un combat de boxe qui à l'époque défrait la chronique. C'est Clay versus Liston. Donc il tourne à Miami et ça donne lieu à des séances de paroles très très libres dans la rue qui sont tout à fait passionnantes à regarder. Donc je vous invite évidemment à revenir pour cette séance, d'autant qu'on vous proposera la version qui a été restaurée par le laboratoire Éclair et pour lesquels il y a aussi de nouveaux sous-titres. Tout ça pour dire que finalement, c'est une démarche qui est aussi politique en fait, puisque dès les années 60, et c'est plus clairement visible en ce qui concerne William Klein et sa participation à Loin du Vietnam, qui est un film signé de grands cinéastes français, je pense à Alain Resnais, Jean-Luc Godard par exemple, ou Agnès Varda. Et le segment de William Klein que propose William Klein est une séance de manifestation, évidemment dans la rue déjà. Et puis quand vient 1968, William Klein habite depuis très longtemps à Paris, en bordure du jardin du Luxembourg. Et puis donc il filme ce qui se passe en bas de chez lui, et c'est un petit peu ce que nous allons voir ce soir. Alors, pour vous guider un petit peu dans ces événements, que peut-être vous n'avez pas tous à l'écran, j'ai pensé à une historienne que j'avais déjà conviée pour nous parler de la jeunesse dans les années 60. On avait programmé une petite séance qui s'appelait « Jeunes 60s ». Et donc, j'avais convié une, peut-être, je ne sais pas, la spécialiste des mouvements de jeunesse dans les années 60, donc Ludivine Mantini, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Merci. Donc, en principe, je l'avais conviée à une présentation, et puis elle m'a demandé, un petit peu dans le droit fil de ce qu'on va voir ce soir, puisque parole libérée, parole horizontale, donc que vous puissiez avoir un échange avec elle à la fin de cette séance. J'imagine que vous aurez plein de questions, en fait, à poser.
C'est pas ça. c'est pas ça que je voulais dire.
Bon, alors tu vas pouvoir leur préciser. Ouais. Celui-là, il marche pas.
Oui, mais c'est pas ça, mais...
Ah,
non,
trop...
je pensais... Non, attends, hop, voilà. C'est parce que je suis plus petite que toi. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. C'est à moi de parler alors, donc, Julien ?
Bon, je crois.
Là, maintenant, oui. D'accord. Pardon. Je suis ravie. Merci beaucoup à Julien pour cet accueil et à toute l'équipe. Et je suis sincèrement heureuse de pouvoir voir et revoir avec vous ce film qui est un trésor, en fait. Justement, c'est vrai que c'est un trésor parce que c'est une rareté sur 1968. Alors, si vous voulez, je peux dire quelques mots maintenant, quand même, comme c'était prévu.
Oui.
Et ce que je viens de demander à Julien, c'est s'il était possible, si ça ne dérange pas trop l'équipe en particulier, et puis si vous, ça vous tente de rester un tout petit peu hein, pour avoir un débat aussi après le film, en tout cas avoir un échange, et c'est pas tant poser des questions que voilà, presque se ressentir nous-mêmes dans une ambiance d'assemblée générale quand on échange de manière très spontanée, et c'est ce qui me paraît vraiment fondamental dans ce film. Donc je peux revenir en quelques mots sur cette atmosphère de 1968 que William Klein restitue si bien, et encore une fois, si c'est une archive si précieuse et par ailleurs une œuvre d'art, c'est qu'on a au fond très peu d'images filmées de 68. Alors on en a, et je dirais que le pendant en miroir de ce film, c'est celui de Jean-Pierre Thorne, Oser lutter, oser vaincre, qui quant à lui se passe vraiment au cœur du monde usinier, du monde du travail. Et c'est voilà, qu'est-ce qui se passe quand tout à coup ben, les ateliers d'une usine automobile s'arrêtent, cessent le travail, que les ouvrières et ouvriers décident non seulement justement de mettre le temps en suspens, en quelque sorte, mais de se parler et de décider de ce qu'ils et elles veulent vraiment. Donc là, bon, le film de William Klein, comme tu viens de le rappeler, il se passe essentiellement au Quartier Latin ou de manière plus générale à Paris. Et il ne s'agit pas pour autant de réduire mai-juin 1968 à ce secteur géographique. Moi, ce que je trouve déjà très très important dans ce film, c'est qu'il nous permet de nous départir de tous les clichés que nous avons pu garder sur 68. Et donc tout ce travail justement de documentation, d'histoire et de mémoire collective nous offre la possibilité de dissocier, alors je vais le dire de manière métaphorique et un peu directe et brutale, de dissocier 68 de Daniel Cohn-Bendit. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est très important de dire qu'on arrête de dire un peu comme la Révolution française, c'est la guillotine, 68, c'est Daniel Cohn-Bendit, mais si, je n'aurais quand même pas la cruauté de comparer Daniel Cohn-Bendit à une guillotine. Mais disons que non, c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même eu 10 millions de personnes qui ont participé à ce mouvement de grève générale, c'est-à-dire à peu près 7,5 millions de salariés qui ont fait grève, et puis des lycéennes, des lycéens, des étudiantes, des étudiants, mais aussi le monde paysan. Alors évidemment, pas tout le secteur agricole de France, hein. Au contraire, il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes, voire beaucoup de rejets à l'égard de ce mouvement social, ce soulèvement populaire extraordinaire dans certaines campagnes. Mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a eu des solidarités très fortes entre des univers sociaux, et même on peut dire des univers culturels, qui étaient très cloisonnés, qui ne se parlaient pas, qui communiquaient très peu. Et ce qu'on va vraiment beaucoup percevoir déjà dans le film de William Klein, c'est cette volonté de se parler, et non seulement de se parler, mais de s'entraider, d'être dans des solidarités vraiment actives et concrètes. Donc ça, c'est peut-être la première chose frappante dans ce film, qui n'est pas du tout uniquement un film consacré au monde étudiant, même s'il y a certaines scènes qui se passent à la Sorbonne, bien évidemment. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre déjà l'esprit du film à cet égard, c'est que Paris est encore une ville assez populaire. Et c'est une ville notamment en partie ouvrière, où il y a encore un certain nombre d'usines. Et dès les tout premiers jours de mai 1968, avant même les grandes nuits des barricades, il y a beaucoup d'employés, d'ouvriers, de serveuses et serveurs de restaurants, de barman, comme on va en voir certains, d'employés d'hôtels, etc., qui vont participer aux premières manifestations. Il va y avoir très très rapidement des rencontres qu'on peut considérer comme improbables dans un premier temps, mais qui ont une consistance vraiment très forte, très puissante et très politique, comme vous allez le voir. C'est une autre caractéristique de ce film, c'est à quel point la parole était politique. Alors, peut-être que vous avez à l'esprit la formule qu'on croit être de Michel de Certeau, philosophe, sociologue aussi, en partie théologien, qui disait en 68, on a pris la parole hein, comme en 89, on avait pris la Bastille. Alors, donc, quand on connaît un petit peu l'histoire de 68, on s'imagine toujours que cette belle formule était de Michel de Certeau. En réalité, non, il l'a empruntée à une parole comme ça lancée à la volée, à la cantonade, dans le théâtre de l'Odéon occupé, qu'on va voir aussi. Et donc, c'est vrai qu'on a pris la parole, on a beaucoup pris la parole. Et ce qui est fantastique dans le film de William Klein, avec ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire être dans la rue, et s'interroger sur ce que peut la rue, c'est déjà toute cette dimension de parole spontanée, évidemment improvisée, mais qui pose des questions très puissantes sur le plan politique, sur le plan, je dirais même, stratégique. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut le faire? À quelles conditions peut-on le faire? Ça a été vraiment quelque chose de fondamental qui, d'ailleurs, a été beaucoup observé par la police. Hein, comme vous allez le voir, on se méfie beaucoup de l'infiltration des renseignements généraux. Et en même temps, je dois dire que pour les historiens et les historiens, Dieu merci, les RG étaient là, parce que ça nous donne des archives à foison, mais qui nous permettent de saisir, quand on a justement très peu d'images et très peu de restitution de cette parole aussi vivace, ça nous donne beaucoup de traces pour faire cette histoire. La priorité, en effet, c'est de s'auto-organiser. Je dirais que le préfixe « auto », il a été absolument structurel dans la grève générale de 1968. Et donc ça, c'est aussi une dimension très importante du film, c'est comment s'organise-t-on de la manière la plus indépendante possible. Et c'est très intéressant dans ce que saisit William Klein, c'est quand même une certaine méfiance à l'égard des appareils, à l'égard des bureaucraties. C'est même très frappant hein, dans ce film à quel point ça traverse. Alors évidemment, on n'est pas n'importe où, hein, mais on est à Paris, dans une ville qui est elle-même très politisée, où il y a aussi beaucoup de groupes de la gauche radicale, révolutionnaire, quelles que soient ses obédiences, et donc avec une certaine méfiance, pas forcément à l'égard des communistes ou de la CGT, mais à l'égard vraiment des dirigeants. Vous allez écouter, vous allez vraiment pouvoir entendre cette critique qui est loin d'être sous-jacente. Et en revoyant le film, elle m'a de nouveau beaucoup frappée dans ce témoignage que nous offre William Klein, parce que ça a été un enjeu absolument décisif, quand même. Comment ne pas être récupéré? Comment poursuivre le plus longtemps possible cette auto-activité politique? On se pose beaucoup la question aussi de l'autogestion. En fait, il ne suffit pas forcément d'occuper son lieu de travail. Donc, on occupe des usines, des bureaux, des chèques postaux, des magasins, des gares, des ports, des lycées, des universités, des théâtres. C'est assez fantastique de ce point de vue. Et c'est le temps qui est libéré par la grève, justement par ce suspens du temps, qui permet vraiment de réfléchir à une vie alternative et aussi, en l'occurrence, pour ce qui concerne la production, pour ce qui concerne les conditions de travail, comment peut-on envisager d'aller au-delà de la seule grève, du seul arrêt de travail, pour peut-être reprendre en main son propre destin et sa destinée aussi sur le travail et ses conditions de production, ses conditions d'exploitation. Donc la question autogestionnaire qui va beaucoup se poser dans les années 70, avec l'IP bien sûr, mais au-delà de l'IP, il y a eu une bonne quarantaine d'expériences d'autogestion. En fait, elle était déjà vraiment dans l'air dès avant 68. Vous allez le voir, je pense, on le perçoit beaucoup dans le film, il y a un très haut niveau politique, je dirais, il y a un très haut niveau de discussion, encore une fois, improvisé comme ça dans la rue. On se pose énormément de questions. Il y a des formes, justement, émancipatrices déjà de cette parole, parce que donc, il y a la rue, il y a les manifestations, mais il y a les comités de grève, il y a les comités d'action, il y a les comités de quartier. On va d'ailleurs se poser une autre question à leur sujet, qui va créer un clivage lui-même politique et qui est un clivage qui relève d'un héritage de longue date entre des cultures politiques, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse la spontanéité de ces comités à la base, voilà, il faut que ça parte de la base, c'est ça qu'on voit dans le film, hein, c'est pas les dirigeants, ce sont vraiment ceux qui travaillent à l'organisation, à la poursuite du mouvement avec toutes les difficultés, avec toutes les hésitations, avec les joies, il y a beaucoup de joie, il y a la joie très créatrice, très libératrice de sentir qu'on est en train de faire l'histoire. Donc ce sont ces protagonistes-là qu'on montre, et donc par le bas, une histoire vraiment par le bas, et là c'est filmé vraiment par le bas. Et d'un autre côté, il y a celles et ceux qui se disent, mais peut-être qu'il faudrait fédérer tout ça. Peut-être que pour former une force politique qui puisse vraiment être une sorte de contre-pouvoir face à un pouvoir qu'on estime un peu vacillant, hein, pendant toute une période, il y a eu, comme vous le savez sans doute, hein, une hésitation de la part du binôme à la tête de l'État, hein, de Gaulle et Pompidou, qui n'étaient pas sur la même ligne stratégique, justement. Certains se sont dit, mais on pourrait fédérer tous ces comités, on pourrait faire en sorte d'élire des délégués qui soient mandatés, qui se réunissent eux-mêmes et elles-mêmes en assemblée, donc pour essayer vraiment de forger une force alternative qui pose la question du pouvoir. Parce que cette question du pouvoir, elle est vraiment posée, et ça aussi, on va beaucoup l'entendre et le voir, le percevoir dans le film. Et donc, c'est cette très belle articulation entre une dimension très pragmatique, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la grève? Comment on convainc aussi autour de soi de rentrer dans la grève? Et puis, il y a cette articulation entre cette dimension-là, politique, stratégique, parfois théorique, et la dimension vraiment très concrète de l'organisation, y compris, comme disait l'autre, qui va s'occuper des enfants? Bon, oui, il faut s'occuper aussi des enfants des grévistes. Et là, on est dans une solidarité à l'œuvre, qui, sous forme d'une entraide concrète, avec des crèches sauvages, dont celle de la Sorbonne, qu'on va voir aussi. Donc, comme je vous le disais, c'est un niveau de questionnement, de délibération qui est vraiment très, très aiguisé, je trouve, avec des discussions, des interpellations de différentes générations. Ça, c'est très important aussi dans le film et pour l'événement, parce qu'on a tendance à dire, 68, ça a été un mouvement de jeunesse, ou ça a été un mouvement d'étudiants. Bon, comme je vous l'ai rappelé, avec le fait qu'il y a 10 millions de personnes qui y participent, ça ne peut pas être un mouvement uniquement de jeunesse, et a fortiori pas du tout un mouvement uniquement d'étudiants, parce que les étudiants, ils représentaient 10 à 12% d'une classe d'âge à l'époque. C'est très, 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 très peu. 10 à 12% de leur propre cohorte démographique. Donc, ils sont très minoritaires, les étudiants et étudiantes. Et justement, ce qui est très important pour eux, c'est d'aller d'emblée discuter avec les jeunes travailleurs. Et donc, il y a eu beaucoup, encore une fois, d'alliances très, très concrètes. Mais s'il y a ce niveau politique aussi, alors c'est parce que, il y a des organisations, mais elles sont très, très, très minoritaires. Hein. Ce n'est pas tant la question même de la structuration des organisations. D'ailleurs, là aussi, c'est une question qui se pose beaucoup. C'est est-ce qu'on veut un parti? Quel type de parti on veut? Peut-être qu'on ne veut plus de parti électoraliste. Peut-être qu'il faut passer par toute autre chose que les élections. Est-ce qu'on veut des dirigeants, ou comme tu le disais, beaucoup plus d'horizontalité? En tout cas, ce qui est voulu, c'est un mouvement. Mais s'il y a ce niveau politique, c'est aussi parce que, en fait, la grève, elle n'a pas surgi ex nihilo, bien évidemment. Elle n'a pas surgi comme ça, comme dans un claquement de doigts. En fait, il y avait eu énormément de mobilisation dans les années qui avaient précédé, et y compris les semaines et les mois qui ont précédé mai-juin 68. Il y avait eu des grèves très, très importantes, par exemple, à la Rodia Ceta, qui est une entreprise de textile artificiel, notamment à Lyon, à Besançon. Et là, on avait déjà occupé l'usine, on s'était déjà posé beaucoup de questions qui relevaient de l'au-delà des salaires. Alors, c'est très important. Moi, je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas discuter des salaires, de l'augmentation des salaires, etc., de la baisse du temps de travail. Mais au-delà, justement, de ces revendications très fortes, parce qu'on avait de petits salaires à l'époque. On se dit toujours, c'était les 30 glorieuses. Tous ceux qui n'ont pas vécu 68 et qui sont peut-être complètement imprégnés de cette idée que ah là là, cette génération de 68-as, de baby-boomers, ils ont tout eu. Et puis maintenant, tout est de leur faute. Vous voyez, ils ont laissé ce monde à volo, aller à volo, etc. Je pense que pour ceux qui ont ceux et celles, je vais systématiquement féminiser parce que vous allez le voir, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont le sens vraiment de l'organisation. Pour celles et ceux qui ont vécu cet événement, je dois dire que ça doit être assez insupportable d'entendre ça. Parce que, en fait, cette génération, comme toute génération, elle est extrêmement hétérogène sur le plan social. Et les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions de logement n'étaient pas du tout aussi mirifique que ce qu'on imagine en général en évoquant les 30 glorieuses qu'avait forgé Jean Fourastier évidemment a posteriori. Non, en fait, il y a vraiment d'abord des inégalités très fortes, bien sûr, il y a beaucoup beaucoup de petits salaires, beaucoup beaucoup de petites retraites. On travaille énormément. En moyenne, en France, on travaille 48 heures par semaine en 1968. 48 heures par semaine, donc vous êtes d'accord avec moi, une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent 50 heures, 54 heures. Par exemple, dans le secteur du bâtiment, on travaille dès l'âge de 14 ans. C'est là qu'il faut aussi avoir à l'esprit que la jeunesse, c'est pas le monde étudiant de la Sorbonne, majoritairement. La jeunesse de ces années-là, c'est beaucoup de gens qui travaillent dès l'âge de 14, 15 ans. L'âge de la majorité obligatoire est reporté à 16 ans en 1959, par la loi de 59. Mais en fait, il faudra du temps pour qu'elle s'applique. Donc, il y a encore de grandes difficultés de logement. À cette époque. Et il y a aussi une dimension qu'on a très très peu en tête en général, parce qu'on pense plutôt à la crise des années 70, mais c'est celle du chômage. Quand on travaille vraiment sur archives, on s'aperçoit que maintenant la question du chômage, elle commençait vraiment déjà à se poser et à devenir obsédante. D'ailleurs, l'ANPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi, l'ancêtre de Pôle Emploi, a été fondée en 1967. Et on ne fonde pas une ANPE si on n'a pas de problème justement de chômage, même si en fait c'était une réalité qui était très difficile à mesurer parce qu'on n'a pas encore des statistiques fiables, mais on craint vraiment le chômage des jeunes, on craint aussi un désajustement entre la formation de plus en plus poussée des jeunes et la réalité de ce qui les attend dans le monde du travail. Donc il faut vraiment avoir tout ça à l'esprit pour comprendre tout simplement pourquoi les gens sont rentrés dans cette grève très durable. Pourquoi, comme je vous le disais, dès 67, il y a eu d'énormes mobilisations, il y a eu de premières barricades. En fait, les premières barricades, d'ailleurs, elles ont été érigé en 67 dans le monde paysan. Les premiers pavés, ils ont été aussi lancés dans ces manifestations paysannes. Au début de l'année 68, et ça a été fondamental pour forger cette conscience politique qu'on va voir là, et les solidarités actives que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu aussi de grands mouvements de grève, par exemple à Caen. Et à Caen, voilà, monde ouvrier, monde plutôt des fonctionnaires, des enseignants, des étudiants et monde paysan se sont vraiment retrouvés. Et là aussi, on a eu des barricades et là aussi, on a eu des affrontements avec les CRS, donc avant même mai-juin 68. Une boussole politique aussi très très importante dans cet univers-là, c'est l'anti-impérialisme. C'est un mot qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui, je pense, sauf dans certains secteurs qui ont gardé cette colonne vertébrale du point de vue politique. L'anti-impérialisme, c'est tout à fait essentiel. Donc tu parlais de loin du Vietnam. Bon, la guerre du Vietnam, elle est absolument majeure aussi pour comprendre l'événement 68 et son surgissement. Souvent, quand on discute avec les plus jeunes, quand on évoque 68, ils disent tout de suite « Ah, les dortoirs des filles, des garçons, dans les résidences universitaires, les filles... Enfin, voilà, les garçons voulaient que les filles puissent venir dans les résidences universitaires. » C'est pas faux du tout, hein. D'ailleurs, il y a une vraie question sur ces enjeux d'émancipation, notamment sexuelle, même si je crois qu'on en a un peu trop dit là-dessus, hein. C'est pas encore la révolution sexuelle qu'on imagine, et c'est très, très 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 variable selon les milieux sociaux, en fait, cette question de voilà, est-ce qu'il faut garder sa virginité jusqu'au mariage, etc. Bon, ça dépend vraiment des milieux, et là on a un peu un biais de perception d'ailleurs, parce que quand on vit à Paris dans le quartier latin, on n'a pas les mêmes pratiques sexuelles, en tout cas dans la jeunesse, hein, je ne dis pas qu'après ça ne se ressemble pas, mais disons voilà, sur la question de la virginité, sur la question de la contraception, des choses comme ça, ce ne sont pas les mêmes pratiques selon les territoires, selon les générations, selon les milieux. Donc il y a ces dimensions, bien sûr. Souvent on dit, ah bah ouais, c'est ça le déclencheur de 68. Bah non, en fait, le déclencheur de 68, c'est vraiment la guerre du Vietnam. Et c'est vraiment, il y avait eu des manifestations dans Paris, notamment contre l'agence American Express, avec des vitres qui avaient été brisées, des jeunes qui avaient été arrêtés. Et donc le libérer nos camarades, il venait aussi de là. Donc je dirais, juste pour terminer, que en fait, c'est un monde où il y a une boussole, quoi. C'est ça qui me frappe aussi en revoyant les images de William Klein et puis en les mettant en regard des nombreuses archives que j'ai pu consulter, y compris les archives du pouvoir, les archives de la police, hein, parce que c'est quand même très violent. Hein. Il y a la violence policière est très très importante. Hein. Souvent, là aussi, on l'euphémise, en fait, cette violence policière. Vous savez, on cite beaucoup le préfet Maurice Grimaud, la circulaire du préfet Grimaud à la fin du mois de mai. En considérant que c'est vraiment un texte qu'il fallait donner à Didier Lallement quand il était préfet de police de Paris récemment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Moi, ça me gêne toujours un peu, parce que je trouve qu'il y a une part de mythologie là-dedans. Bien sûr que Maurice Grimaud était quand même incomparablement différent de son prédécesseur Maurice Papon, de très, très, très sinistre mémoire, et qui avait était l'un des responsables des massacres pendant la guerre d'indépendance algérienne donc à Paris, mais il n'était pas le seul responsable. Hein. Le pouvoir en était aussi responsable, c'est un peu facile de dire que c'était Maurice Papon. Bon, il ne s'agit pas du tout de comparer Papon et Grimaud, mais il y a eu un encouragement de Grimaud comme préfet de police pendant tout le mois de mai jusqu'à cette circulaire, jusqu'à ce qu'en fait il y ait des morts aussi, hein, parce qu'il y a eu des morts en 68, du fait de la répression policière, un encouragement vraiment à une répression qui a été sanglante, où il y a eu beaucoup, beaucoup de blessés graves, etc. Donc la violence policière, elle est réelle, et c'est d'ailleurs ça qui a été le déclencheur de la grève générale. Parce que le 13 mai 68, à l'origine, c'est 24 heures de grève interprofessionnelle pour protester contre la répression policière, notamment dans le quartier latin. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une boussole. J'ai l'impression que, enfin, ça nous aide aujourd'hui. C'est pour ça que moi, ça me fait d'autant plus plaisir de revoir ce film incroyable de vie, de bonheur, en même temps de doute. Je pense que c'est très précieux pour aujourd'hui sur la question de notre propre responsabilité. Il va être question de la conscience, de la responsabilité. Comment on peut se sentir vraiment légitime à parler, déjà? C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on parle à la fin du film, si on peut, si j'arrête d'être bavarde moi-même maintenant, qu'on puisse se sentir légitime à parler du bien commun, quoi, à faire vraiment une cité. C'est ça aussi le film, c'est comment on fait une cité en se sentant digne de prendre la parole. Et c'est assez fantastique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, par exemple, j'ai pas le certificat d'études. Bah oui, bah tu peux, vas-y, parle, et tu as des idées, et l'intelligence collective qui se déploie est assez fantastique, et je pense qu'elle nous donne de l'espoir, et elle nous donne à nous-mêmes une forme de boussole. Voilà.
Moi, je crois qu'on a envie vraiment de voir le film. Merci beaucoup, Ludivine, et à tout à l'heure. Alors, j'ai à votre disposition des micros, si vous souhaitez faire part de vos impressions avec notre invitée Ludivine Mantini. Juste préciser peut-être les conditions un petit peu de tournage qu'il faut imaginer pour ce film, c'est-à-dire William Klein est quelqu'un qui aime cadrer, déclencher, aller chercher les images. Donc là, il travaille avec une caméra 16 mm à l'épaule qui est assez lourde, mais malgré tout, je pense que tout le monde a pu sentir à quel point il est complètement immergé au plus près de tous ceux qui croisent dans la rue. Et il travaille aussi avec une optique qui lui permet d'aller chercher les visages un petit peu au plus près de leur réaction. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Je sais, on a entendu beaucoup de paroles. On a entendu une parole qui est souvent amplifiée aussi par des mégaphones, des micros, etc. Et justement, j'ai des micros. Si vous souhaitez... Alors, je vais donner un micro à Ludivine aussi, qui est à sa place.
Oui, vraiment, ce film, j'ai vu pas mal de rétrospectives sur 68, photographiques ou pas, des revues et tout, mais ce film est excellent. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'il est hors pair. Mais alors là, ce qui est très, très étonnant... C'est vu le contexte actuel, on ne peut pas s'empêcher de se dire quand même que l'effervescence des esprits fonctionnait à 100%, d'une part, chez les ouvriers, moi j'ai eu l'occasion d'en connaître, chez les ouvriers, dans toutes les réunions de cellules, d'un milieu à l'autre, c'était absolument exceptionnel. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait vraiment de la solidarité dans le milieu du travail, de la solidarité au travail. Et il n'y avait pas la guerre des partis qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est contre ce qui se passe, par exemple, cette verticalité de la décision, mais les partis se déchirent entre eux pour conserver leur position, avoir le pouvoir. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui appartient à une France qui était encore capable de rêver au changement, d'avoir un pouvoir, que les choses étaient possibles. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est terrible parce qu'on a l'impression d'un abandon de l'esprit, quoi. Les gens sont d'accord derrière, on en parle, mais il n'y a personne pour permettre cette solidarité. Bon, alors, et lui, il montre parfaitement en plus. Vous avez présenté très bien, impeccable votre présentation, mais quand même, en tant que femme, c'était très important tout ce qui s'est passé avant, aussi pour la femme. Parce qu'en fait, la femme avait besoin de revendiquer très fort ce qui lui manquait à l'époque. Hein, je veux dire, la liberté sexuelle ou pas, sans avoir besoin de rentrer dans les détails ni quoi que ce soit, ou les abus qu'il y a eu, enfin les excès. Mais c'était une revendication très très importante. Sans tomber dans l'excès qu'il y avait certaines revendications aux États-Unis, etc. Mais voilà, bon, la guerre du Vietnam, les grands conflits, l'international, enfin, je veux dire, tout ça, c'était vivant encore en France. Moi, j'ai appartenu à des réunions de cellules, des distributions, enfin, c'était peut-être les années juste après 68, distribution de la 4e internationale, dirigée par Krivine, et tout ça, quoi. Alors évidemment, quand on voit comme Bandit, hein, alors là franchement c'est c'est sûr qu'on peut plus en parler aujourd'hui, sinon comme quelqu'un qui a été complètement récupéré, quoi, je veux dire, voilà. Mais ça a été un mouvement d'effervescence et de besoin d'agir et d'échanger et de la tolérance. Évidemment, c'est fougueux, c'est normal, c'est fougueux, mais voilà, maintenant tout ça c'est mort. C'est quand même et il parle de gouvernance populaire, on en parle aussi, il y en a qui travaillent dessus, mais on n'en parle jamais, ils sont interdits. Il y a des mouvements souterrains quand même forts qui essayent de faire une constitution citoyenne, enfin une gouvernance populaire, quoi, je vais dire, mais pas pour faire c'est pas une révolution, c'est détrôner l'absence de démocratie, quoi. Voilà. Donc vous voyez, en 50 ans, ça n'a pas évolué. Mais voilà, bon, c'est tout ce que je peux dire, ayant vécu ça et vivant très douloureusement tout ce qui se passe aujourd'hui, très douloureusement, y compris le manque de réactivité chez beaucoup de monde, quoi. Voilà, c'est tout. C'est peut-être un peu trop politique, mais enfin, c'est les sensations qu'on a devant des projections comme ça.
Merci, direction.
Je suis assez vieille pour avoir eu 16 ans en 68 et avoir été dans la rue avec tout cela, sauf que c'était en province. Et donc c'était un petit peu différent. Mais effectivement, l'esprit est complètement là. Et l'esprit, ce n'est pas celui de l'union, c'est celui des débats. Et moi, ce qui m'a frappée au tout début du film, c'est que avec le recul maintenant, c'est ce que je pense, 68 a été le premier moment où on s'est rendu compte que les partis en étaient à leur dernier jour, qu'il ne pouvait plus y avoir, comme jusque-là, des dirigeants et puis des militants qui plus ou moins obéissaient. Je pense que 68 a été un grand mouvement contre ça, qui ne le savait peut-être pas complètement lui-même. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, moi je pense que c'est à la déliquescence totale des partis. Ce n'est pas à l'heure qui se bouffe le nez, ce n'est pas ça. De nos jours, il n'y a plus de partis, il y a des gens qui essaient de se faire élire avec des partis derrière. Mais je veux dire, le dernier à avoir utilisé un grand parti, c'est Mitterrand, qui était un très grand stratège, que je ne porte absolument pas dans mon cœur, mais qui était un très très grand stratège, qui a d'ailleurs, au point d'ailleurs, qui s'est refait une virginité en se mariant avec une résistante, lui qui a été un résistant de la toute dernière heure et qui était décoré de la Francisque, comme ce cher monsieur Papon dont on a parlé au début. Donc ce sont des gens que, franchement, je ne porte pas dans mon cœur. Mais pour en revenir au film, il montre ça au début, cette question de où doit être le pouvoir, faut-il faire table rase ou pas, qui est aussi une autre grande question qui se pose aussi de nos jours. Est-ce qu'il faut faire table rase du passé ou est-ce qu'il faut prendre les choses à l'endroit où elles sont, comme les enseignants dans une classe, et faire évoluer chacun à partir de l'endroit où il en est, et donc faire évoluer la société à partir de l'endroit où il en est. La grande question aussi qui a été posée, de toute façon on n'arrivera à rien, parce que c'est l'homme qu'il faut changer, si on n'arrive pas à changer l'homme, on tombera toujours sur les mêmes problèmes. Elle est toujours d'actualité, on l'entend toujours, et elle est toujours aussi, à mon avis, mal posé. Parce que l'homme, il est aussi ce qu'on en fait. Non, l'homme est ce que la société en fait. Et justement, à un moment, il dit, on nous fait croire, il y en a un qui dit, on nous fait croire qu'il faut risquer d'avoir un accident de voiture pour assister à Belle et Sébastien. On nous rend complètement abrutis. Je veux dire qu'aujourd'hui, alors là, c'est puissance 1000 qu'on nous rend complètement abrutis. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon, je n'arrêterai pas. Et la seule chose que je peux dire, c'est très bien de puiser dans les archives, mais il ne faut pas après pleurer parce que tous ceux qui l'ont vécu sont morts. De nos jours, il y a encore plein de gens qui l'ont vécu tout à fait différemment. Et c'est, à mon avis, ça qu'il faut interroger. Merci.
Merci, c'est moi. Je fais passer le micro à la première personne. Je ne vous ai pas oublié. Mais...
Oui, j'avais envie de dire quelque chose de général et de singulier en même temps. C'est que ce qui frappe dans le film, c'est la parole, effectivement, comme vous l'aviez dit. J'ai été extrêmement émue, par exemple, quand, au moment du débat à l'Odéon, il y a ce serveur... qui dit combien il gagne, qu'il dit comment il aurait aimé faire pour faire autre chose, pour faire une formation, pour animer une maison de la culture, et qu'il ne l'a pas pu. Et il pose, il me semble, la question essentielle, c'est-à-dire les différences de la différence de classe passait par là. Elle passe un peu moins, me semble-t-il quand même, mais elle passait par là surtout. C'est-à-dire le non-accès au plaisir du savoir, au plaisir de la culture. Autre chose que je voulais dire, parce que bon, comme quelques-uns qui sont ici ce soir, j'y étais. Voilà, je les ai tous connus, hein, je les ai tous reconnus, tous connus. Et je me rappelle que, par exemple, dans les comités d'action, parce que les comités d'action étaient extrêmement importants, il y avait aussi des gens qui, comme cet homme... racontaient leur journée et racontaient ce qu'ils espéraient et racontaient contre quoi ils s'étaient battus. Et je trouve que cette parole, dans le film, on s'en lasse pas. L'autre chose aussi, puis je vais arrêter, c'est la jeunesse. Enfin, je trouve que c'est extrêmement émouvant. On voit, c'est un mouvement de jeunes. En même temps, je m'en souviens, c'était un mouvement de jeunes qui rencontraient des anciens. On parlait avec ceux qui avaient milité contre la guerre d'Algérie, qui disaient, mais vous allez plus loin que nous, nous, on n'a pas été aussi loin que vous. Donc, il y avait des rencontres entre différentes générations, il y avait aussi des résistants. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a actuellement tout un mouvement libertaire qui, au fond, est l'héritier de mai 68 et qui est encore là. Et ce sont aussi les héritiers de la Commune. Voilà, je crois que c'est ça qu'on ressent, me semble-t-il, quand on écoute, quand on voit et quand on écoute le film.
Merci.
Merci. Bruno, contrairement aux intervenants précédents, je n'ai pas assisté à ces événements. J'avais 8 ans et j'étais au Canada à l'époque. Et donc je suis très reconnaissant à ce film qui est fantastique parce que j'ai enfin beaucoup mieux compris qu'est-ce que c'était que mai 68. Donc de ce point de vue-là, c'est fantastique. En même temps, je suis extrêmement sceptique. Parce que finalement, à quoi ça a servi tout ça? À rien. Aujourd'hui, moi j'ai grandi, j'ai 62 ans, j'ai un fils qui a 17 ans. Quand je me lève le matin et que je le réveille, la première chose qu'il fait, c'est qu'il me traite de connard. C'est normal, il a 17 ans. En général, je le félicite pour sa montée de testostérone. Donc ça l'énerve encore plus, et je me fais traiter de connard 50 ou 100 fois par jour. Quand je vois ce film et qu'est-ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'être face à une grande bande d'ados, à un pays d'ados, qui traitent leur père de connard, qui critiquent tout et qui construisent rien. Bah, de mon point de vue, moi je suis un optimiste par philosophie. Toute ma vie j'ai essayé de rendre service, j'écris des livres, je fais des conférences un peu partout sur la planète. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Cohn-Bendit et de débattre avec lui sur le plan des idées. Il n'est pas mauvais, mais je me défends pas mal non plus. Et pour moi, c'est du nihilisme, ça ne sert à rien, c'est destructif. Et donc je comprends pourquoi les Canadiens et les Américains ne comprennent rien tout ça. C'est parce qu'il n'y a rien à comprendre et que ça ne sert à rien. On se fait plaisir en disant qu'on fait la révolution, on critique tout le monde, on critique les parents, on critique les dirigeants, et ça mène nulle part. Voilà. Donc je vous invite à être un peu plus optimiste et constructif dans vos approches.
Les enfants par rapport à leurs parents répètent ce qu'on leur déclare sur 68.
Merci. Bonsoir.
Oula.
Moi j'avais une question à poser, mais puisque tout le monde raconte un peu son rapport à 68, en deux secondes, moi j'avais 15 ans, et donc effectivement ça a été une révélation, dont je ne suis toujours pas revenu d'ailleurs. Si, j'y suis revenu assez récemment tout de même, même si je n'avais jamais oublié 68, avec les Gilets jaunes. Et en regardant ce film que je ne connaissais pas, je me dis, j'espère qu'on ne va pas attendre 50 ans pour voir un film de cette qualité-là sur le mouvement, le plus grand mouvement insurrectionnel depuis 68, qui a été celui des Gilets jaunes. Bon, c'est une question pas rhétorique, mais je ne sais pas s'il y a des cinéastes qui ont travaillé là-dessus. Peut-être que vous pourrez me répondre. Et j'avais un second point très précis. Vous avez parlé du préfet de police Grimaud en 68, dont il a été question lors de la répression du mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on a rappelé la fameuse directive qu'il avait adressée à ses troupes. De ne pas taper à terre, je crois, de ne pas frapper à terre. Bon. Et en 68, il y avait des barricades, il y avait des pavés, des cocktails Molotov. C'était hyper violent. Et de l'autre côté, c'était hyper violent aussi. Et donc ma question, en fait, est la suivante. Vous avez parlé des niveaux de répression. Donc pour rester dans mon rapport au mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, il n'y avait pas de cocktail Molotov. Il n'y avait pas de pavé, il y avait du caillassa, pas grand-chose, quelques barricades sur les champs. En revanche, le bilan en termes physiques, les mutilations, les blessures, les crânes fracassés, et je ne parle pas des condamnations après, ça a été énorme. Donc, est-ce que vous auriez, Madame Tini, des éléments de comparaison du niveau vraiment factuel de la répression en 68 comparé à la répression Gilets jaunes? C'est peut-être une question difficile. Enfin, difficile. Ah, non, vous savez qu'on n'a pas les éléments. C'est... Surtout, qu'est-ce que vous en penseriez? Est-ce que vous diriez qu'en 50 ans, finalement, on réprime plus fort, plus durement, les mouvements sociaux que... C'est ça, moi, qui apparaît aussi.
Mais je ne sais pas s'il y a d'autres...
Alors que le mouvement, encore une fois, en 68, était, enfin, les étudiants, ils se battaient à coups de pavés et de cocktails. Moi, personnellement, j'ai fait toutes les manifs de Gilets jaunes à Paris. Je n'ai jamais vu ça. Enfin, je suis peut-être très ponctuellement, mais rien.
Je répondrai après.
Oui, bonjour. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, mais ce qui m'a frappé aussi dans ce film, c'était de voir la façon dont les gens débattaient. Et aujourd'hui, en 2023, on a vraiment l'impression que les jeunes sont beaucoup moins engagés politiquement, débattent beaucoup moins. Et c'est ce qui m'a frappé. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a abordé ce sujet, mais j'aurais aimé connaître votre point de vue sur cette question.
Il y a pas mal de lieux où les gens débattent et ont débattu ces dernières années. Moi j'étais à Acte Paris, on a eu des scènes comme ça à Acte Paris. Il y a des choses qui ont rappelé les âgés ou d'autres contextes. Ce qui m'interrogeait par rapport au film et à la situation actuelle, c'est en l'occurrence ce qu'exprime De Gaulle à la fin du film. Peut-être il a raison. Il pose la question du rôle des grands partis, et en partie de la manière dont le Parti communiste récupère 68, selon lui. Quoi qu'il arrive, ce sur quoi ça m'interroge par rapport à la situation actuelle, c'est qu'il y avait des grosses centrales syndicales, il y avait des gros partis populaires qui avaient la capacité de décréter une grève générale. En même temps, là, on voit l'auto-organisation de comités, de groupes révolutionnaires. Et je m'interroge sur la situation actuelle. Est-ce que c'est une chance, finalement, de ne plus avoir ces grosses centrales ou ces grands partis, ou est-ce que c'est une faiblesse aujourd'hui? Parce que est-ce qu'on est vraiment capable, en auto-organisation, de renverser les choses de manière forte, sans une grève générale? Est-ce qu'on a les leviers? Ou est-ce que, finalement, ces centrales ont finalement fait foirer 68? J'en sais rien.
Bon, ça fait beaucoup de questions très intéressantes, je sais pas.
Moi, je veux bien dire quelques mots, mais d'abord, je voudrais m'adresser à vous, parce que votre propos a été particulièrement virulent, et je le trouve injuste, mais après, c'est très bien qu'on en parle, et que vous ayez pu l'exprimer tranquillement. Je trouve très injuste d'avoir cette caractérisation sur, voilà, en fait, tout ça n'a servi à rien, c'était un peuple adolescent qui voulait tout détruire, qui n'avait rien à proposer, c'est exactement le contraire. Alors, peut-être que le film n'en rend pas suffisamment compte, mais donc il faut lire. Je me permets de faire de l'autopromotion pour un livre que j'ai écrit qui s'appelle 1968, de grand soir en petit matin, justement, et c'était évidemment un hommage à William Klein. En fait, ce qui m'intéressait, c'était justement ce qui était porté en termes de projet, en termes d'espoir, en termes très concrets, en termes d'aspiration, de revendication et d'organisation, vraiment pour changer la vie. Changer la vie, après c'est devenu un slogan du Parti Socialiste, mais avant toute chose, c'est des mots d'un poète qui s'appelait Arthur Rimbaud, et vraiment les gens ont voulu changer la vie. Ils avaient beaucoup de choses à proposer. Ils se sont réunis dans leur quartier, dans leurs entreprises, dans leurs lycées. C'est incroyable, par exemple, les lycéens et lycéennes, tout ce qu'ils ont réussi à proposer pour des pédagogies qui soient plus vivantes, où les personnes s'impliquent davantage. Et c'est, pourtant, ces jeunes de 15 ans, 16 ans n'avaient pas lu Montessori, n'avaient pas lu Paolo Freire, n'avaient pas lu Freinet. Mais ce qu'ils proposaient, c'était justement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une forme d'école émancipée, etc. Ça, c'est un seul exemple. Mais dans les usines, on discutait justement de comment on pouvait échapper à ce qu'on appelait les cadences infernales. Et je peux vous dire que ce n'était pas juste un slogan, quoi, cette formule, hein, les cadences infernales. Je vous ai dit tout à l'heure, on travaillait 48 heures par semaine pour de tout petits salaires, etc. Et donc, on voulait vraiment s'interroger sur la façon dont on pouvait reprendre la main sur son destin. Et donc, contrairement à ce que vous dites... c'était vraiment des gens qui n'étaient pas dans le refus, mais qui étaient dans la volonté, non seulement la volonté de savoir, ça, ça a été, vous l'avez dit par exemple sur le rapport à la culture, on ne le voit pas assez dans le film, hein, mais c'est un art aussi. C'est, je veux dire, il y a une créativité. Souvent, on parle des slogans de 68. Bon, ça, c'était les situationnistes. Hein, c'était un petit groupe qui avait cette poésie des mots sur les murs. Mais en fait, même dans les usines, on a eu des ateliers de dessins, de fresques, etc. Bon, ça, c'était toute une dimension. Mais ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que même si je comprends que peut-être en sortant de la projection de ce film, vous ayez ce sentiment, mais je crois que c'est exactement l'inverse de ce qui se produit. Et d'ailleurs, ce 68 ne s'est pas terminé avec les élections de juin. Ce 68 ne s'est pas terminé le 30 juin, lorsque les forces gaullistes l'ont emporté. En réalité, à une courte majorité, hein, parce que la France était littéralement coupée en deux. Et du point de vue des résultats électoraux, il y a eu une partition complètement bipolaire. Ça ne s'est pas traduit de la même façon dans l'Assemblée nationale en termes de sièges. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer dans le détail. Mais en fait, on avait vraiment une France coupée en deux. Entre une France qui veut un changement réel, on l'entend. En fait, le socialisme... Attendez, il y a quelques éléments que je voulais ajouter. Le socialisme, on se dit, voilà, on parle beaucoup du socialisme, hein, ça ne renvoie pas spécialement à un parti qui était en l'occurrence la SFIO. Le socialisme, et c'est là que je vous rejoins aussi sur l'héritage du 19e siècle, de la Commune de Paris, le socialisme, c'est une volonté de justice, d'émancipation, d'égalité. C'est une volonté vraiment de partage. Et donc la question du partage des richesses, il est beaucoup posé en 68. Et de ce point de vue, le rapport au futur est ancré dans un certain rapport à l'histoire. Une conscience historique qu'on ne perçoit pas énormément là dans le film. Mais le Front populaire, ça compte aussi beaucoup. Vous avez évoqué la résistance, la guerre d'Algérie. Mais certaines personnes qui ont à nouveau occupé leur usine, leur entreprise, avaient déjà participé au Front populaire. Et c'était comme une main tendue aussi à ce passé que certains... des protagonistes de 68 avaient vécu. Donc il y a une force aussi de l'histoire, la Commune de Paris, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur cet événement extraordinaire, et je pense qu'on n'aurait pas pu dire non plus que c'était un peuple adolescent qui en voulait à tout le monde. Non, en fait, ils avaient le sentiment vraiment de rechercher une liberté face à l'exploitation. Vous voyez, enfin, vous ne pouvez pas dire que c'est des gens, ouais, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient, ils étaient destructeurs. Ces gens, en fait, ils étaient dans des conditions où, encore une fois, on travaillait dur. L'aliénation, c'était un mot qui était important aussi à cette époque, l'aliénation, le sentiment d'être aliéné, métro, boulot, dodo, c'est trois mots qui apparaissent en 68 justement. Et donc quand on dit, voilà, on veut davantage de commun, on veut plus de temps pour se retrouver. On a le sentiment, en effet, de ces grandes injustices, de ces grandes inégalités. Vous l'avez rappelé avec la question des salaires, des niveaux d'études, etc. On veut aussi que d'autres arrivent à faire des études, parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, les étudiants, ils étaient vraiment une toute petite minorité, plutôt vraiment privilégiés, mais en avaient conscience. Et ça, c'était très beau aussi. C'est pour ça que lundi, ah bah oui, d'accord, les étudiants sont des fils de bourgeois ou des filles de bourgeois, mais en fait, ils veulent autre chose. Ils veulent vraiment une forme d'égalité. Ils ne veulent pas être des privilégiés. Ils ne veulent pas servir de rouage à un système qu'ils estiment oppresseur. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y ait pas eu des trajectoires d'évolution. C'est pour ça que je voulais dissocier 68 de Cohn-Bendit, parce qu'il se trouve que Daniel Cohn-Bendit a beaucoup changé politiquement. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de faire des émissions avec lui. Et je suis toujours très choquée de la façon dont se réapproprie 68. Je suis très choquée. Et je suis donc d'autant plus choquée que la médiatisation aujourd'hui de 68 rabatte toujours l'événement sur Cohn-Bendit. Parce que même si c'était passionnant, hein, il avait une pensée politique très vive. Hein. Il y a un livre qu'il a écrit avec son frère Gabriel Cohn-Bendit, Le remède à la maladie sénile du communisme, le gauchisme. Enfin bref, c'est un livre... très juste, très profond, très intelligent, vraiment, avec une intuition politique très forte. C'est d'ailleurs plutôt son frère aîné que lui qui y prenait part. Mais bon, mais excusez-moi, en fait, je vais essayer de dire quelques mots sur les différentes interventions. Donc, c'est vrai que je reprends la parole moi-même avec un peu d'autorité et peut-être sans vous la laisser, mais je voulais vous répondre parce que ça m'a affecté, en fait, ce que vous avez dit. Non, mais attendez. Ben non, mais c'est parce qu'en fait, vous avez... Bon, allez, je me tiens à mes principes d'horizontalité, en effet.
Changer sa vie, bien sûr. Reprendre en main son destin, c'est pareil, bien sûr. Ensuite, en fait, tout ça, c'est pour être utile, c'est pour construire un monde meilleur, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais il y a plusieurs manières de construire un monde meilleur. Là, on parle d'une réaction contre la politique telle qu'elle est, d'un système révolutionnaire. Moi, toute ma vie, j'ai essayé d'être utile. J'ai écrit des livres, j'ai fait des conférences, mais j'attends rien de personne. Et je pense que c'est la méthode qui marche. Il faut essayer une autre voie. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne du président de la République, des mouvements syndicaux, des mouvements politiques, etc. Il faut arrêter. Il faut juste agir soi-même, mais tout seul. Tout seul. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Si chacun fait ce qui, autour de lui ce qu'il faut, tout va mieux. Et on ne regrette jamais ce qu'on a fait. Mais ça ne passe pas par la révolution, aller dans la rue, les pavés ou même les gilets jaunes. Faites, agissez dans votre vie à vous, autour de vous. Il n'y a pas besoin de faire tout ça.
Pour obtenir 10%, il faut demander 1000%.
Mais il ne s'agit pas d'obtenir 10%, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'agir dans sa vie, autour de soi, dans sa famille, dans ses amis, dans sa ville. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Il y a une règle générale. Quand il y a une idéologie, en général, ce n'est pas bon. L'idéologie, ça ne marche pas, c'est comme la religion.
Est-ce que vous n'êtes pas dans
l'idéologie, vous,
peut-être ?
Non.
Ok, alors, comme le débat, plus personne ne s'entend, je crois. Peut-être juste, puisqu'on a posé deux questions à...
S'il vous plaît.
On a posé deux questions, je crois. On a adressé deux questions à Ludivine sur la question de la répression policière. Et aussi, monsieur a posé la question. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous redonniez le micro.
Peut-être, avant juste de donner la parole à Ludivine pour vous répondre, en fait, les gens de 68... À mon avis, on a eu une action après coup. Moi, je suis 75, donc bien après ça. C'est clair que les gens qui ont jalonné mon parcours ont eu cet engagement-là. Et donc, je ne suis pas sûr que, précisément, cet événement-là ne les ait pas changés et n'ait pas changé leur manière de vivre par la suite. Donc, considérer que ça s'arrête en 68 après un événement révolutionnaire, c'est, à mon avis, se planter. Il y a clairement des traîtres, et on peut renvoyer par exemple au livre de Guy Hockenheim, qui est vraiment très réjouissant, en même temps déprimant à mourir, parce que c'est des gens qui étaient encore là, occupant les places il y a moins de 10 ans. Mais ce n'est pas vrai de considérer qu'il n'y a que l'événement et rien d'autre après. Je ne crois pas.
Ok. Alors, oui.
Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il y a très peu de femmes qui parlent dans ce film. Et elles ne peuvent pas parler longtemps. Il y a une autre chose. Maintenant, il y a peu de personnes de couleur. Et il n'y en a aucune qui parle. Il y en a une à un moment qui parle, et les gens se mettent à parler tout de suite au-dessus. Et donc, 68 a raté, mais ça réussit avec le MLF. Encore que le MLF, c'est scindé... avec des mouvements, avec une femme qui avait pris le pouvoir. Je parle de oh, j'ai oublié son nom maintenant. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a très peu de femmes. La même chose, il n'y a pas de cheveux longs. On imagine toujours 68 avec des cheveux longs. Non, ils ont les cheveux courts.
Ok. Alors attendez, ouais, c'est surtout. Merci, je vais prendre le micro pour le. C'était pour le faire passer.
Un peu d'ordre, il faut rétablir l'ordre.
Ouais, non, c'était Julien. C'était juste pour que Ludivine puisse répondre aux deux questions sur la répression policière et sur la question des partis et des syndicats.
Des syndicats, oui. En fait, bon, vous avez eu raison de parler du soulèvement populaire des Gilets jaunes. Hein. Alors, ce n'est pas du tout le même dispositif, puisqu'il n'y a pas véritablement de grève, donc il n'y a pas d'occupation des lieux de travail, etc. Ce sont d'autres choix, pour beaucoup d'autres raisons, des changements de sociologie, parce que c'est devenu très difficile de faire grève quand il y a beaucoup de précarité, beaucoup de chômage, bien davantage. Mais un mouvement de grève, on en a eu d'autres. On en a eu un contre la réforme des retraites, et très puissant, avec aussi... Oui. Non, mais j'étais juste en train de dire que la différence, c'est notamment la grève et les occupations, mais en revanche, bien sûr que occuper les ronds-points, faire des cabanes. Je suis allée dans des endroits, mais c'était fou. Les gilets jaunes qui avaient construit des cabanes, vraiment. Et puis où il y avait l'hospitalité, il y avait la solidarité, il y avait beaucoup de prises de parole populaires, c'est sûr. Et bon, en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine qui vient, mais il y aura aussi l'auto-organisation, etc. Et il y aura sans doute aussi des mouvements de grève importants, des manifestations importantes et des slogans très, très créatifs, je pense qu'on peut ne pas en douter. Et donc des mouvements populaires, il y a eu aussi Nuit Debout dans beaucoup de villes, hein, pas seulement à Paris. Et à Nuit Debout, justement, moi, ce qui m'a frappée par rapport à la remarque que vous venez de faire sur le fait qu'il y avait pas beaucoup de femmes qui prenaient la parole, etc. Bon, là, c'était encore davantage horizontal, justement. Et moi, j'avais discuté avec Christine Delphi, que vous connaissez peut-être, qui est une féministe, voilà, qui a joué un rôle très essentiel dans, justement, la pensée de l'émancipation féministe dans les années 70 et par la suite, et qui me disait, profitez bien de ce moment de Nuit Debout, y compris par contraste avec 68, parce que Nuit Debout, c'est encore davantage démocratique, c'est encore davantage la volonté de refuser les leaders. Et par rapport à ce que vous avez dit à l'instant, qui est tout à fait fondamental, les femmes ont joué un rôle vraiment important en 68. Et on ne le voit pas assez dans le film, mais beaucoup dans les usines. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usines en grève qui étaient des usines essentiellement féminines. Il y avait aussi des secteurs de l'emploi, par exemple les chèques postaux, j'y ai fait allusion rapidement, c'était des femmes très, très majoritairement. Elles étaient en grève, elles occupaient. Certaines dans les usines, voilà, s'installaient des tentes, etc., et occupaient leurs usines. Même s'il y avait des tensions avec certains dirigeants syndicaux, des hommes qui ne voulaient pas trop de cela et qui parfois voulaient reprendre la main. Et donc ça renvoie à la question, je ne dirais pas tant les syndicats, parce que les syndicats, il me semble que c'est quand même toujours une force d'organisation. D'ailleurs, quelqu'un dit à l'époque, ouais, mais qu'est-ce que ça représente les syndicats, c'est 10% des travailleurs. Bon, c'était un peu plus en réalité, mais en fait, c'est quand même une force pour appeler, pour diffuser. Je pense vraiment que le travail syndical de terrain, il est très précieux dans ce genre de mouvement et dans ceux qu'on a connus depuis lors et ceux qu'on connaît encore aujourd'hui et dont l'un qui va commencer jeudi prochain. Et c'est vraiment toujours beaucoup, surtout de sincérité des gens qui travaillent dans ces syndicats, enfin qui sont syndiqués, beaucoup de sincérité dans l'engagement, etc. Et ce qui est terrible, en effet, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui est terrible, tout à fait. Mais par exemple. Non, mais exactement, ce que je voulais dire, c'est que là, enfin, il y a un travail de terrain qui est souvent dévoyé, comme on l'entend beaucoup dans le film, Segui, etc. Enfin, il est très, très critiqué parce qu'on a le sentiment d'une trahison. Et c'est vrai que De Gaulle, pour le coup, a raison de dire que, en fait, la direction du Parti communiste et dès lors aussi de la CGT ont voulu reprendre la main sur un mouvement qu'ils ne contrôlaient pas et qui leur a échappé, et en grande partie. Et donc, il y a eu d'ailleurs un dissensus entre la CGT et la CFDT. Alors, on l'imagine mal aujourd'hui au vu du fait que la CFDT est devenue très, très différente de ce qu'elle était dans les années 68. Mais la CFDT, qui était beaucoup plus autogestionnaire, a été très critique à l'égard de la reprise du travail. Oui, a été très critique à l'égard de la reprise du travail, disant que, en fait, on n'avait pas obtenu suffisamment par rapport au rapport de force incroyable qui avait été établi avec, encore une fois, 10 millions de personnes en grève et dans la rue. Et pour finir sur la répression, ben vous avez raison de rappeler la terrible répression qu'a connue le mouvement des Gilets jaunes avec quelques 35 personnes, par exemple, qui ont perdu soit un œil, soit une main. Bon. Mais, alors, oui, tout à fait. Mais oui, alors justement, c'est documenté, par exemple, on peut se référer au travail, alors surtout de collecte d'informations qu'a fait le journaliste David Dufresne. Et justement, il y avait aussi, David a eu la possibilité, avec un compte Twitter, avec les réseaux sociaux, de mettre en lumière ces violences policières et de documenter cas par cas le résultat de ces violences. Et du coup, les médias, y compris Le Monde, par exemple, ont fait un travail remarquable parfois pour aller dans le sens de cette documentation. En 68, c'est beaucoup moins le cas, mais j'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup sur les archives de police. Et vraiment, le nombre de blessés est très important. Le nombre de blessés graves aussi est vraiment important. Et il y a eu, à la différence du mouvement des Gilets jaunes, on pourrait citer bien sûr Zineb Redouane, qui est cette dame à Marseille qui est morte des suites d'un jet de grenade lacrymogène. Mais c'est la seule victime en termes de mortalité du mouvement des Gilets jaunes. C'est déjà beaucoup trop. Et il faut rappeler son nom et sa mémoire. Mais en 68, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu des morts dans la rue. Le 27 mai 68, il y a un jeune manifestant de 27 ans qui a été tué. Il y a aussi Gilles Totin qui est mort en juin, noyé, sans doute après avoir été matraqué lors de la solidarité justement entre les étudiants et les ouvriers à Flins. Il y a eu aussi Pierre Bello, et j'oublie le nom de son camarade, que je connais pourtant par cœur habituellement quand j'en parle, avec émotion, parce que c'était les ouvriers qui sont morts dans le cadre de l'investissement par les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie mobile, d'une usine qui était encore occupée en juin. Donc il y a eu des morts, et ça on s'en souvient trop peu, et c'est pour ça que je tenais à dire un mot à propos de Grimaud, parce que d'un côté il y a eu cette circulaire, mais quand il prend cette circulaire, il y a déjà eu tout un mois en fait, où, en effet, les CRS ont frappé à terre des manifestants. Et lui-même a encouragé, en fait, ses troupes, comme vous le disiez, en les récompensant par des primes, en les récompensant par des médailles. Voilà, enfin, toutes les archives de la préfecture de police le montrent à l'envi. Il y a eu vraiment un salut qui a été donné à la manière dont le maintien de l'ordre était organisé, donc y compris avec ses blessés, y compris avec ses morts. Non, je pense qu'en fait, il se trouve que Castaner a eu la chance, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de mort. Mais en fait, non, je pense que le niveau répressif s'est encore accru parce que en fait, par exemple, l'équipement... Alors, j'ai vu aussi des archives des policiers eux-mêmes qui se plaignaient beaucoup de ne pas être suffisamment bien équipés, etc. Bon, voilà, l'équipement est devenu complètement militarisé de la police française aujourd'hui, et en particulier des CRS, et en particulier, par exemple... de la brave en fait, voilà, qui s'est constituée un peu à l'instar des voltigeurs qui avaient tué Malik Osekin dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. Donc et ça a été longtemps une hantise d'ailleurs, par exemple de Jacques Chirac. Si le dernier recul d'un gouvernement face à un tel soulèvement populaire, à la fois d'ailleurs de travailleurs et de lycéens et d'étudiants, c'est celui du CPE en 2006, c'est parce que Jacques Chirac restait vraiment dans ce traumatisme de la mort de Malik Osekin. Et Jacques Chirac avait aussi un rôle important en 68. D'ailleurs, c'est lui qui était ministre, il avait été ministre du Travail. Et on l'appelait d'ailleurs Monsieur Chômage. Voilà, je vous parlais de la NPE tout à l'heure. Jacques Chirac, en 68, on l'appelait Monsieur Chômage. Voilà. Donc voilà, je voudrais qu'on n'oublie pas justement le niveau de violence. Alors vous l'avez dit aussi des manifestants, mais le niveau de violence de la répression policière, sinon déjà on ne comprend pas l'entrée dans le mouvement dont je vous ai dit que le 13 mai, c'était déjà une réaction face à cette violence. Et aussi parce que, y compris les barricades, alors on a parlé de la Commune de Paris, souvent, je trouve qu'il y a une sorte de condescendance dans le récit médiatique sur 68. Ah oui, ces barricades qui servaient à rien, vraiment, enfin... non, en fait, on espérait vraiment, on se référait à 1830, au Canut de 1831-1834, on se référait à 1848, à juin 48, on se référait à 1871, la Commune de Paris, et on pensait vraiment... Et il y avait du courage à faire ces barricades. Et le nier aujourd'hui, enfin, que finalement, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu... Enfin, moi, ça n'a pas abouti, mais je pense que vraiment, on doit... Enfin, moi, j'ai l'impression de devoir énormément à cette génération, y compris sur le plan des batailles féministes, sur le plan de l'égalité, sur le plan même dans les rapports humains, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé grâce à cette génération, grâce à leur engagement, grâce à leur volonté de dire, voilà, on est légitime à prendre la parole. Et je trouve que beaucoup de... On parlait tout à l'heure d'héritage. Je ne suis pas sûre du tout que les jeunes soient moins concernés. Il y a énormément de phénomènes de solidarité, il y a énormément de phénomènes de politisation, pas seulement sur les questions écologiques ou sur les questions justement d'émancipation sexuelle ou sur les questions féministes. Moi, je suis très impressionnée par le niveau de réflexion féministe, entre autres, de cette jeune génération, celle qui a entre 16 et 25 ans aujourd'hui. Mais il y a aussi un héritage, c'est évident. J'ai parlé de Nuit Debout, on pourrait parler des ZAD, cadre, mais en fait, ça va bien au-delà. Je sais pas, je rencontre beaucoup, alors c'est peut-être un biais de perception, mais je rencontre beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui se lancent dans des coopératives, par exemple, qui ne veulent plus vivre dans un système de compétition, de concurrence, qui veulent se lancer dans des coopératives, dans des mutuelles, des choses comme ça. Voilà, une forme de retour à des solidarités. Quand il y a eu le Covid et le confinement, très très rapidement, dans beaucoup de villes, il y a eu des brigades de solidarité populaire. Donc je crois que, voilà, on est aussi à la croisée des chemins. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Face à la menace fasciste ». C'est un titre qui est un peu déprimant, lui aussi, « Face à la menace fasciste ». Je crois qu'il y a vraiment, certains disaient dans les années 50, 60, socialisme ou barbarie. Bon, ben voilà. En fait, la question de la fascisation, elle est réelle. C'est un risque réel face à la violence de ce monde. Mais je crois que l'espoir de l'émancipation, l'espoir de l'auto-organisation, l'espoir d'échapper à un système oppressif, il existe toujours. Voilà, et c'est tout. Moi, maintenant, je me tais.
Alors, je suis absolument désolé de devoir vous couper, mais il est 20h, il faut qu'on quitte la salle.
Donc, merci, Julien, d'avoir permis ce moment, en tout cas.
Merci à tout le monde de s'être exprimé. Merci beaucoup.